Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Îles Andaman et Nicobar.
Archipel du sud-est asiatique et site d'expérimentation touristique et carcérale en décor naturel, situé à environ 7150 km de la ville de Karnobat en Bulgarie. Archipel nous rien.
L'insulinde désigne une vaste chaîne montagneuse qui émerge au nord-est de l'océan Indien. Elle s'est constituée par la rencontre entre une excroissance de la plaque tectonique eurasienne, entourée de la plaque indienne à l'ouest et philippine à l'est, et la plaque australienne au sud. Elle forme une vaste zone volcanique entre l'océan Indien et le Pacifique, sur environ 2 millions de kilomètres carrés et plus de 25 000 îlots et îles. Pour des raisons qui dépassent la protivophilie, les hominines de cette région ont divisé la chaîne montagneuse en différents pays, qu'ils nomment dorénavant Philippines, Indonésie, Malaisie, Brunei et Timor oriental, ainsi qu'une minuscule partie de l'Inde, les îles Andaman et Nicobar. Actuellement, la population de l'archipel Nusantarien est estimée à 400 millions d'hominines. Pour désigner cet ensemble géographique, le terme de Nusantara a été introduit pour remplacer insulinde, monde malais ou austronésien, qui sont la colonisation et les classifications racistes du 19e après J.C. Basé sur l'étymon Nusa, île, le mot javanais Nusantara signifie île de l'extérieur, dans le sens de autre que celle de Java. Une étymologie sanscrite postule que Antara signifie entre, et que par conséquent, Nusantara prend le sens de archipel, et par extension, le terme est utilisé pour nommer l'ensemble de l'archipel Nusantarien.
Possession de l'Inde, les îles des Andaman et de Nicobar sont situées à l'extrême nord de la chaîne montagneuse Nusantarienne, au large de Myanmar, ex-Birmanie, et sont séparées de l'Inde par environ 1312 km d'eau du golfe de Bengale. Distant de 200 km du nord de l'île de Sumatra, le petit archipel est fait de deux groupes d'îles séparés d'une centaine de kilomètres. Les Nicobar sont constitués de 22 îles, dont 12 habitées par des hominines, pour une superficie de 1840 km², et les Andaman de 550 îles, dont 26 habitées, pour 6400 km². Les premières tiennent leur nom d'un terme de la langue tamoule signifiant « nu », et les secondes sont à rapprocher d'un terme sanscrit ayant le sens de « hominine nu ». Quelques récits mentionnent des hominines vivant nus sur certaines de ces îles. L'archipel andamano-nicobarien est connu des empires du sous-continent indien ou sud-asiatique qui les incorporent dans leur zone d'influence, sans néanmoins s'y établir définitivement. Dans le milieu du XVIIIe siècle, le royaume du Danemark s'installe sur des îles Nicobar qu'il incorpore à son empire sous le nom de Nouveau-Danemark. Mais les épisodes de paludisme contraignent les colons danois à quitter définitivement les Nicobar moins d'un siècle plus tard. L'Empire britannique s'empare des îles Andaman à la fin du XVIIIe siècle et les annexe à ses colonies des Indes orientales. En 1868, les Nicobar sont cédés par le Danemark aux Britanniques. Lorsque ces empires coloniaux européens annexent l'archipel andamano-nicobarienne, les îles sont habitées par des hominines chasseurs-cueilleurs. Leur population est alors estimée à quelques dizaines de milliers. Un climat tropical et des zones forestières denses leur fournissent une autosuffisance alimentaire. Les différentes pratiques linguistiques des Nicobar se rattachent aux Khmer et aux Viet, alors que celles des Andaman constituent un groupe distinct, isolé.
Archipel du Goulag.
Lorsqu'ils s'installent dans les Andaman, les Britanniques ont pour projet d'en faire une colonie pénitentiaire, géographiquement isolée du reste de son empire. Dès 1789, une colonie est mise en place sur la petite île Chatham, dans le sud-est de l'île de la Grande Andaman, près de l'actuelle ville de Port Blair. Après 2 années, la colonie est déménagée dans le nord de la Grande Andaman, puis finalement définitivement fermée en 1796, après de très nombreux morts parmi les prisonniers. Pour faire face à l'augmentation du nombre de prisonniers, fait lors de manifestations anti-britanniques dans les Indes orientales, les autorités lancent la construction d'une nouvelle prison sur l'île Viper, près de Port Blair, à partir de 1857. Sur Ross, une autre petite île de la rade de Port Blair, une nouvelle colonie pénitentiaire est ouverte. Les conditions de détention sont déplorables, les gardiens cruels et les morts nombreuses. Un premier groupe de 200 prisonniers venant des Indes est déporté vers les Andamans. Enchaînés, mal nourris et malades, ils sont contraints de construire des baraquements et de défricher une partie de la dense forêt pour accueillir un millier de prisonniers. Sur les 8000 prisonniers arrivés entre 1859 et 1864 dans les Andamans et parqués sur l'île Ross, plus de 3500 décèdent de maladies et de mauvais traitements, soit une mortalité de 700 par an. Dans le début des années 1870, les Britanniques lancent des tests pharmaceutiques sur environ 10 000 prisonniers pour lutter contre le paludisme. Les effets secondaires sont terribles et causent la mort de nombreux d'entre eux. Outre les conditions de détention, les hominines prisonniers doivent faire face à l'hostilité des hominines autochtones des îles. En 1859, ces derniers attaquent la colonie pénitentiaire de Ross pour s'opposer à l'avancée coloniale. Même si le rapport de force militaire est au bénéfice des Britanniques, les hominines autochtones maintiennent la pression et parfois tuent ceux qui s'aventurent trop loin de la colonie. Entre les prisonniers et leurs geôliers, les tensions sont permanentes. Un prisonnier assassine le vice-roi des Indes britanniques lors de sa visite de la colonie pénitentiaire en 1872. Les évasions sont durement réprimées et les évadés ne peuvent pas compter sur l'aide des hominines andamanais qui n'hésitent pas à les tuer. En 1858, 90 prisonniers parviennent à s'échapper de la prison de l'île de Ross. Parce qu'ils manquent de nourriture, les évadés qui ne sont pas tués par les Iliens de Ross se rendent aux autorités après quelques jours. Seul, Doudnat Tewari parvient à survivre. Il reste plus de 13 mois parmi les Akabea, où il est marié à plusieurs jeunes femmes. Ayant eu vent qu'une attaque se prépare contre Port Blair, il quitte les Akabea pour prévenir la colonie. Pour cela, il sera excusé de sa condamnation.
En 1896, pour faire face au nombre grandissant de prisonniers, les Britanniques entament la construction d'une nouvelle prison à Port Blair. Le projet est basé sur le principe du panoptique, où 696 cellules de 4,5 mètres sur 2,7 sont réparties dans un bâtiment en forme de 7 rayons de roue de vélo, dont le centre est le poste de contrôle. Cette structure permet de limiter au maximum les communications entre les prisonniers. Inspiré par le plan d'une usine que son frère a réalisé, le Britannique Jeremy Bentham publie en 1780 le Panoptique, où il explique son projet de nouvelle prison dans lequel la surveillance est maximum avec un minimum de surveillants grâce à une architecture en roue de vélo. Après 10 ans de travaux, cette prison de haute sécurité est opérationnelle en 1906. Les Britanniques y déportent des milliers d'hominines opposés à la politique coloniale dans les Indes orientales. La plupart des prisonniers appartiennent aux nombreux mouvements qui luttent pour une Inde indépendante ou pour le refus de la partition entre l'Inde et le Pakistan, qu'ils soient nationalistes, révolutionnaires marxistes, religieux traditionnalistes ou anticolonialistes laïcs, qu'ils aient opté pour une opposition pacifiste ou soient adeptes de la violence politique. Cet archipel du Goulag est un haut lieu de la torture et des mauvais traitements à la sauce Worcestershire. Lorsqu'ils ne sont pas tués par pendaison pour des tentatives d'évasion ou de révolte, ou assassinés lors de séances de torture, les prisonniers décèdent du manque de nourriture, de maladie ou de suicide désespéré. La prison est surnommée Kalapani, eau noire, en référence à un tabou de la culture hindouienne qui proscrit la traversée des océans au risque de perdre la pureté assurée par les eaux du Gange et son statut dans le système de caste ou d'y rencontrer des monstres marins. Le tabou hindouien de Kalapani est très répandu parmi les forces armées coloniales britanniques composées de colonisés. Les hindouiens qui servent dans ces rangs sont exemptés du service en Outre-mer, donc dans les autres régions de notre empire, et les quelques tentatives au XIXe siècle de passer outre ce tabou se sont soldées par des mutineries.
Environ 80 000 hominines, dont peu ont survécu, sont envoyées dans cet archipel jusqu'en 1941, date à laquelle un tremblement de terre endommage gravement 4 ailes de la prison de Port Blair, ailes qui seront par la suite fermées puis détruites. En 1942, les forces armées nippones chassent les Britanniques des Andamans et Nicobar et occupent l'archipel. Ils prennent le contrôle des prisons. Pendant 3 ans, ils administrent à la sauce shoyu, le territoire où ils envoient un détachement de 600 militaires et font parvenir quelques femmes de réconfort, coréennes, chinoises ou birmanes. L'expression « femme de réconfort » désigne, dans la terminologie de l'armée nippone, le réseau de prostitution mis en place pour satisfaire les militaires sur le terrain de guerre ou d'occupation. Pour faire face aux innombrables viols dans les régions conquises, l'armée instaure le viol organisé. Enlevé ou arnaqué, très rarement volontaire, de 200 000 à 300 000 hominines femelles, parfois très jeunes, originaires des régions conquises, sont utilisées comme esclaves sexuels pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2000 maisons closes militaires sont ainsi installées. Environ 20% d'entre elles meurent de maladies ou de mauvais traitements. Les derniers bordels militaires de campagne, acronyme BMC, de l'armée française, réservés aux légionnaires, sont fermés en 1978 en Corse, 1995 en Guyane et 2003 à Djibouti.
Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin. Les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, y'en a plus. Pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, y'en a plus. Pour les Belges, y'en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Tiens, voilà du boudin. Voilà du boudin.
Comme leurs prédécesseurs britanniques, la torture des prisonniers est une activité du quotidien. Un raffinement sadique. Pour cause de Seconde Guerre mondiale, les conditions de vie sur l'archipel sont de plus en plus difficiles, et pas seulement pour les prisonniers. Le manque de nourriture est le principal problème. Les Nippons décident même, en 1945, d'expulser vers l'intérieur des îles entre 250 et 700 hominines pour qu'ils y trouvent de quoi survivre. La plupart meurent. Selon les estimations, cette occupation militaire est responsable de plus de 2000 morts. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation nippone, l'archipel andamano-nicobarien est restitué aux Britanniques. Puis, avec l'indépendance de l'Inde en 1947, il est incorporé en 1950 à ce nouveau pays, malgré les protestations de colons anglo-indiens qui voulaient en faire un État séparé. Des colonies pénitentiaires des îles Viper et Ross, il ne reste maintenant que des ruines et d'obscures références cinéphiles. Dans le film « 20 milieux sous les mers », réalisé en 1954 par les studios Walt Disney, la colonie pénitentiaire de Rurapente, dans laquelle le capitaine Nemo est enfermé, fait référence à l'île Ross. Rurapente est aussi le nom d'une prison souterraine de haute sécurité, située sur une froide planète inhospitalière dans l'univers de Star Trek. Les prisonniers travaillent durement dans une mine de dilithium. Le capitaine Kirk y est même incarcéré en 2293 après avoir été accusé, à tort, de l'attentat contre l'empereur Klingon.
Au bagne de Rurapente. Ici, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de mirador. Et pas d'enceinte électronique. Seulement un bouclier magnétique pour empêcher les transferts. Pour vous, la punition se bornera à être sorti de la prison et exilé à la surface. Et à la surface, rien ne peut survivre. Travaillez bien, et vous serez bien traité. Travaillez mal, et vous mourrez.
Les trois ailes de la prison de Port Blair, qui ont survécu au tremblement de terre, sont transformées en musées par les nouvelles autorités indiennes et restent les symboles de la barbarie coloniale dans la mythologie nationaliste indienne. En 2006, le centenaire de l'ouverture de Kalapani est commémoré en grande pompe par les autorités indiennes. À noter le film indien Kaalapani, sorti en 1996, traduit en plusieurs langues de l'Inde et maintes fois récompensé dans le pays.
Flow 20 fois posé sur chaque 16. Mais j'étais déjà prêt quand c'était chahi dans le siège. Ils sont pas fuite, fuite, moi j'y vais vite, vite. Nous j'en profite, vite. Pour faire que les faves et mon ex lâche. J'ai pas mâché mes mots, c'est maintenant, les. J'ai pas le temps, j'vais rappeler pour 400 000. J'étais tout seul, maintenant j'suis le seul qui réussit. Y'a pas d'autre que j'ai papa, maman pour acheter du cannabis. Ils vont dire que j'suis méchant, ils sont plus la saison 1. Heureusement que j'suis là, la saison, j'vais la saisonner. J'espère que vous aimez le changement parce que moi j'suis là assez souvent. Donc je change def, def, def flow, def. De flow, de flow. Si tu crois que j'ai bugué, c'est que t'as pas suivi. De flow, de flow, de flow. Je crois que c'est toi qui a bugué, enchanté, c'est lui. La prod est chelou, mais pas autant que moi. Je construis un monde fait de l'ego et de cap là. T'as besoin de lit, donc tu ne fais qu'appeler. De toute façon, c'est le refrain donc. Donc j'ai changé de flow au moins 5-6 fois. Et pour les bêtos, j'ai bien qu'un seul doigt. Viens parler d'écho, viens parler d'écho. Mais fais pas le sexiste parce que tu les excites pas. J'étais seul au fond, comme si j'existe pas. Maintenant je prends la scène, vas-y désiste-toi. Putain, décide-toi. Soit t'es avec moi, soit t'es l'ennemi que je vais abattre 25 fois. Donne-moi un briquet de l'alcool que je foute le feu. T'as bonnes idées que j'ai déjà eu en 42. J'vois des récits glaçants à la carambe. Toi t'es pété comme blague à la caramba. Change de flow, de flow, de flow. Si tu crois que j'ai bugué, c'est que t'as pas suivi. De flow, de flow, de flow. J'crois que c'est toi qui a bugué, enchanté, c'est lui. J'gratte un millier de mots dans mon carnet. J'rappe pour parler à la meuf qui m'a trahi en premier. Du coup, si t'écoutes ça, j'te fais coucou. Et j'me demande ce qui m'a retenu de venir casser tes deux genoux. Désolé, maman, j'suis pas si violent d'habitude. Mais tu sais que bien trop de gens sont venus mener la vie dure. Alors quand j'ai une occasion qui ferme leur gueule et qui m'écoute tous, j'en profite pour crier, va te faire foutre.
Archipel, Andamano, Nicobaria.
L'une des conséquences de la colonisation des Andamans et Nicobar est le reflux des hominines autochtones dans des zones toujours plus isolées et réduites. Depuis le XVIIIe siècle, leur population a considérablement diminué. Les maladies importées, l'implantation de colons sur de nouveaux territoires et les tentatives de pacification furent autant de moments de déclin des sociétés dominines de l'archipel. Toutes furent, à un moment ou un autre de la colonisation, en contact avec les occupants. Elles furent tout autant observées par des anthropologues ou des militaires britanniques. Quelques spécimens furent même kidnappés pour être étudiés. Dans un humour très britannique, Maurice Vidal Portman, aristocrate et officier en charge du territoire, publie en 1899 son étude « An History of Our Relation with Andamanes », dans laquelle il retrace ses observations anthropologiques relevées lors de ses campagnes de pacification, qu'il mène pendant une vingtaine d'années. Et en 1922, l'anthropologue britannique Alfred Radcliffe Brown fait paraître The Andaman Islander, A Study in Social Anthropology. Généralement estampillés négritos, les hominines des Andamans suscitent depuis une fantasmagorie littéraire et scientifique sur leur mode de vie. Physiquement plus proches des hominines africains qu'asiatiques, vivant de chasse, de pêche et de cueillette, préférant souvent la nudité, les sociétés andamanaises se différencient entre elles par des territoires et des pratiques linguistiques distinctes. Au XIXe siècle, les estimations donnent un chiffre de plus de 7000 hominines autochtones sur les Andamans, dont plus de 5000 grands andamanais, répartis en une dizaine de groupes distincts sur toute l'île. Et par ordre décroissant, des Jerawas, des Janguils, des Onges et des Sentinelles. En ce qui concerne les Nicobars, elles sont peuplées de deux sociétés dominines différentes, dont les langues ne sont apparentées ni entre elles, ni avec celles des Andamans. Les Nicobari sont probablement issus de migrations dominines plus récentes que les Andamanais et ne sont pas classifiés parmi les Negritos.
Le terme espagnol de Negritos signifie « petit noir » et désigne l'ensemble des populations dominines à la peau noire et de petite taille d'Asie du Sud-Est. Ils sont issus d'anciennes vagues migratoires en provenance de l'Afrique vers le pourtour de l'océan Indien, puis le sud-est asiatique. Cette classification de Negritos ne correspond à aucune réalité commune et les sociétés ainsi classées n'ont rien à voir entre elles. Mais elle résume le manque d'imagination et la subtilité raciste des colonisateurs espagnols arrivant dans les actuelles Philippines. Ce qualificatif englobe de très petites sociétés dominines, parfois encore chasseurs-cueilleurs, vivant dans les Philippines, la Malaisie et dans les îles indiennes des Andaman et Nicobar. Il est synonyme de pygmée, qui lui désigne les hominines de petite taille vivant actuellement en Afrique. L'éclatement de l'empire britannique des Indes orientales entre le Pakistan et l'Inde, puis la lutte du Pakistan oriental dans les années 1970 pour être indépendant, sous le nom de Bangladesh, provoque des vagues de migration de réfugiés hindouiens fuyant l'ex-Pakistan oriental. La pression démographique sur les Andaman et Nicobar est considérable. Les Jongils et la majeure partie des tribus de la Grande Andaman ont disparu entre les années 1910 et 1930 et au XXIe siècle, il ne reste qu'une cinquantaine de grands Andamanais déplacés sur une petite île du centre-est, un peu plus de 200 Jaravas dans le sud, une centaine d'onges à l'extrême nord de la Petite Andaman et moins d'une centaine d'hominines sur l'île North Sentinel. Dans les Nicobar, seuls quelques 200 Champens vivent à l'écart sur une île, Grande Nicobar, et plus de 2000 Nicobari, dont les différentes langues se rattachent aux langues Viet ou Khmer, sont établies sur une dizaine d'îles. En Inde, il existe depuis les années 1950 plusieurs cadres juridiques qui définissent des statuts particuliers pour des situations sociales marginalisées. Justifiés par les croyances hindouiennes, les castes sont un système hiérarchique d'organisation de la société en segments héréditaires basés sur des activités sociales. Chaque caste comporte plusieurs subdivisions. En haut de la pyramide, la caste de prêtres, puis celle des nobles et des guerriers, celle des commerçants et des agriculteurs, et tout en bas, la plus nombreuse, celle de leurs serviteurs. Les Dalits sont hors caste. Aux côtés des Scheduled Castes, qui recensent les intouchables ou Dalits, c'est-à-dire l'ensemble des hominines n'appartenant à aucune caste et contraints d'exercer les métiers et les activités jugées dégradantes, le système indien instaure les Scheduled Tribes, par lesquels 744 tribus sont recensées sur l'ensemble du territoire indien, environ 8% de la population totale. Rapporté aux Andaman et Nicobar, les hominines autochtones représentent respectivement 0,000833% et 0,00166% de la population de l'Inde. La population actuelle sur l'ensemble de l'archipel est de plus de 380 000 hominines, originaires pour la plupart d'anciennes colonies britanniques, aujourd'hui indépendantes, telles l'Inde, le Bangladesh ou le Myanmar, ex-Birmanie. Pour certains cas particuliers, il existe la classification Other Backward Class, OBC, qui, dans le cas des Andaman et Nicobar, inclut les Karens, déportés du nord de l'actuel Myanmar par les Britanniques et restés dans le nord de l'archipel à l'indépendance. En théorie, ces différents statuts prévoient la mise en place d'une ségrégation positive pour améliorer l'intégration sociale des Dalits, accordent des protections particulières pour des minorités et des interdits sur des territoires. Pour minimiser l'impact des migrations, des routes et des touristes, les autorités indiennes ont sanctuarisé certaines îles de l'archipel, les interdisant formellement à tout étranger. Ainsi, les Jaravas au sud de la Grande Andaman et les hominines de North Sentinel sont-ils contraints de rester dans leur zone s'ils ne veulent pas avoir à en découdre avec un extérieur qui leur est hostile. Les premiers sont confrontés aux nouvelles maladies et à l'extension de la route qui traverse la Grande Andaman du sud au nord. Et les seconds, parqués sur leur île, doivent se cacher de toute intrusion. Celles qui les soutiennent usent parfois d'un romantisme malsain pour ceux qu'ils appellent les peuples premiers vivants encore, selon eux, à l'âge de pierre. Par exemple, la bande-annonce du documentaire « Nous sommes l'humanité », réalisé en 2018 par Alexandre de Reims, n'hésite pas à affirmer « Sur une île perdue en Asie du Sud-Est, les premiers humains vivent toujours dans un paradis secret, isolé de notre monde depuis la nuit des temps ». Après les colonies pénitentiaires britanniques, les Indiens instaurent ainsi des prisons à ciel ouvert pour autochtones en voie de disparition.
Thank you. കത്തിച്ചോപ്പുമായും മാനത്താരുമാരിവില്ലിൻ തൊങ്ങൽ തൂക്കും നിന്റെ ചെല്ലക്കാതിൽ കുഞ്ഞിക്കമ്മലൻ
Malgré ces quelques contraintes administratives, il reste possible pour les touristes de se rendre dans ce magnifique zoo humain. Les zones visitables sont garanties sans risque, ni animaux sauvages, ni hominines belliqueux. Les principales régions où résident encore de petites poches d'hominines pacifiées sont accessibles par la route. Les Andamans possèdent aussi plusieurs espaces délimités où la faune et la flore sont préservées. Les paysages sont magnifiques et les ruines des anciennes prisons feront un beau fond d'écran pour de nombreux likes. Les photos et les vidéos sont autorisées, mais il est formellement interdit de nourrir la population locale. Ni friandises, ni hamburgers. Ne pas jeter les mouchoirs usagés et utiliser des toilettes chimiques portables. Mécontent de la timidité de ces quelques prescriptions qui ne font que renforcer le tourisme prétendument responsable et sans doute courroucé par les effets néfastes de l'aéroport de Port Blair sur les espèces endémiques d'oiseaux nocturnes, des survivalistes internationalistes appellent depuis des années à une campagne du type « brûle ton porc ». Survival International est une organisation non gouvernementale fondée au Royaume-Uni en 1969 dans le but d'aider pacifiquement et poliment les peuples autochtones à défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. Elle a mené en 2000 des campagnes contre le déplacement forcé de Jarawas de la Grande Andaman et en 2017 contre une route qui traverse leur territoire pour le plus grand plaisir des touristes.
Île North Sentinel.
L'île North Sentinel est située dans le sud-ouest de la Grande Andaman, à moins de 40 km de la côte. D'une superficie de 60 km² et entourée d'une barrière corallienne, l'île est recouverte d'une forêt dense dont le point culminant est à une centaine de mètres d'altitude. Son climat est tropical. Quatre îlets proches sont rattachés à North Sentinel. À une soixantaine de kilomètres au sud se situe l'île inhabitée de South Sentinel, plus petite. Toutes deux tiennent leur nom de leur position géographique qui en font, en arrivant par l'ouest, les premières îles avant de rejoindre la Grande Andaman pour l'une et la Petite Andaman pour l'autre. Dès 1771, les Britanniques observent que l'île est habitée lors d'une expédition de cartographie marine. L'équipage ne débarque pas. En 1867, un bateau de marchandises indiens s'échoue sur un récif de North Sentinel. Les rescapés doivent faire face à une attaque des Iliens avant d'être secourus par un navire britannique. Cette même année, un officier britannique débarque pour la première fois sur l'île et fournit la première description des hominines qui y vivent, avec toute l'arrogance aristocratique et le mépris raciste de sa classe sociale. Leur aspect rappelle à bien des égards celui des jeunes gens de la campagne anglaise issus des classes inférieures. Les sentinelles ont des traits profondément idiots. Maurice Vidal Portman, An History of Our Relation with the Andamanese, 1899.
Maurice Vidal Portman, l'administrateur militaire britannique, prend la tête en 1880 d'un détachement armé envoyé sur North Sentinel. Lorsqu'il débarque, les Iliens fuient et les militaires ne trouvent que des maisons abandonnées de leurs habitants. Il traque ces hominines et en capture 6 qui sont déportés à Port Blair. 2 sont âgés et meurent peu de temps après leur arrivée. Les 4 autres, des enfants, tombent rapidement malades. Décision est prise de les renvoyer à North Sentinel. De nouvelles expéditions sont lancées par Portman en 1883, 1885 et 1887 pour tenter d'établir des contacts entre les Britanniques et les Iliens. Sans succès. En 1896, une petite troupe est envoyée sur l'île à la poursuite d'un évadé de la colonie pénitentiaire qui est finalement retrouvé mort, tué par les Iliens. Les premiers écrits anthropologiques sur les hominines de North Sentinel datent de cette fin du XIXe siècle. Ils décrivent des hominines de petite taille et à la peau noire, dont le mode de vie est fait de chasse et de cueillette, vivant dans de petits villages faits de maisons collectives. Des canoës sont utilisés pour la pêche. Leur nudité est habillée de décorations corporelles. Généralement, ils montrent une hostilité envers les non-iliens, qui n'hésitent pas à attaquer avec des arcs et des lances, mais tout en restant prudents et à distance, préférant plutôt se rendre inaccessibles. Les quelques interprètes natifs de la Grande Andaman, accompagnant les expéditions, ne parviennent pas à se faire comprendre d'eux. Des théories avancent que les Iliens de North Sentinel sont issus d'ancêtres des Onges de la Petite Andaman, dont ils seraient détachés depuis des milliers d'années. Responsable militaire de la colonie pénitentiaire de Port Blair par sadisme et anthropologue par passion, Richard Carnac Temple définit ainsi les îles de North Sentinel en 1899.
Une tribu néanmoins inoffensive qui tue tous les étrangers à vue, qu'il s'agisse d'un des leurs qu'ils ont oublié, d'un membre d'une autre tribu andamanaise ou d'un complet étranger. Les expéditions britanniques de 1902, 1911 et 1932 sont motivées par des recensements de la population. Celle de 1911 doit faire face à l'hostilité des Iliens qui, à l'aide d'arcs, repoussent les curieux qui s'étaient aventurés trop profondément dans la forêt. En 1959, l'Inde interdit de s'approcher à moins de 5 km des côtes de l'île. Entre 1967 et 1991, un anthropologue indien est envoyé, lors de différentes missions, pour établir un contact amical avec les Iliens. Si la première en 1967 ne se solde pas par une rencontre, les suivantes permettent à l'anthropologue d'échanger quelques objets et des noix de coco inexistantes sur l'île. Trilok Nath Pandit est le premier anthropologue indien à entrer en contact avec des Iliens de North Sentinel. Il est envoyé par l'Anthropological Survey of India dans le cadre de sa gestion des minorités nationales. De nombreuses photos et vidéos sont faites lors de ces expéditions. Mais le rapport établi reste fragile et maintes fois l'hostilité prudente des Iliens se transforme en agressivité violente. Dans la même période, des naufragés doivent se protéger des attaques des Iliens alors que d'autres parviennent à établir des contacts. Des vidéastes du National Geographic fuient devant les flèches en 1974, tout comme le roi des Belges, en vacances l'année suivante. Alors qu'une anthropologue indienne parvient en 1991 à établir un contact amical avec les quelques Iliens venus à sa rencontre. Elle mène aussi plusieurs prises de contact jusqu'en 1994, lors desquelles les relations sont tout aussi pacifiques. Le projet d'implanter des cocotiers sur l'île est néanmoins abandonné et l'Inde adopte une politique visant à préserver les Iliens de toute relation extérieure et ainsi minimiser l'impact néfaste que d'éventuels contacts pourraient produire sur leur micro-société. Des patrouilles de la marine indienne assurent une surveillance partielle afin d'empêcher des pêcheurs, des touristes ou des curieux de poser le pied sur North Sentinel. La population de l'île est alors estimée entre 50 et 250 hominines. L'horrible nom de Sentinelle, qu'il aurait généralement accolé, est par défaut de connaître celui qu'ils se donnent eux-mêmes.
Le truc, c'est que l'anthropologie à l'ancienne s'était fait avec le cul. Bref, revenons à notre tribu de départ. Alors, les Sentinelles, c'est le nom que nous, on leur donne, parce qu'ils habitent sur une île qui s'appelle North Sentinel, donc c'est juste à cause du nom de l'île qu'on leur a donné ce nom de peuple. Mais en pratique, on ne sait pas du tout comment eux-mêmes s'appellent, parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose sur eux. On sait qu'ils habitent sur une petite île indienne de 60 km² qui est dans l'archipel andaman, ok. Ils sont entre 50 et 200. Peut-être, peut-être plus en fait. Il y en a qui ont suspecté qu'ils avaient perdu l'usage du feu, mais ça paraît quand même très improbable. En fait, on sait que dalle. D'ailleurs, il y a un article qui résume vraiment tout ce qu'on sait sur eux, il fait 8 pages. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a plus de mots sur la page Wikipédia qui parle de l'orientation du PQ que dans l'article qui résume toutes les connaissances qu'on a sur les Sentinelles. C'est peut-être cette absence d'information qui a mené autant de gens à croire que c'était un peuple qui est non contacté. Que ce serait une sorte de société relique du paléolithique, comme si des gens vivaient sous cloche depuis des milliers d'années et qu'ils n'avaient absolument pas évolué. Tout ce que je viens de dire dans cette phrase est faux.
Fin décembre 2004, le frottement entre les plaques tectoniques indiennes, eurasiennes et australiennes provoque un gigantesque tremblement de terre au nord de l'île indonésienne de Sumatra, au sud des Nicobar. Ce mouvement sous-marin fait naître trois violents raz-de-marée successifs qui se répandent à travers l'océan Indien jusqu'aux côtes somaliennes en Afrique et dévastent tout sur leur passage, faisant plus de 250 000 morts dans les pays du pourtour de l'océan Indien. Dans les Nicobar, proches de l'épicentre, le bilan est d'environ 7 000 morts et autant de disparus. Certaines petites îles ont été entièrement submergées, avec des milliers de disparus. L'île Katchal est ravagée et seuls 700 hominines sur 5300 survivent. Environ 18 000 hominines sont partis disparus sur l'ensemble de l'archipel des Andaman et Nicobar. Outre les dégâts matériels et ses conséquences désastreuses sur les hominines, ce tremblement de terre opère localement des changements sur la croûte terrestre, rehaussant quelques îles de plusieurs mètres. L'île North Sentinel s'est ainsi élevée de 1,5 mètre, faisant émerger de petites zones coralliennes jusqu'alors sous-marines comme autant de petits îlets. L'hélicoptère envoyé rapidement par l'Inde pour voir s'il y avait des survivants est assailli par des flèches et dénombre une trentaine d'Iliens avant de rebrousser chemin. Même accueil lors d'une tentative en 2006 de récupérer les corps de deux marins échoués sur l'île. En novembre 2018, un jeune missionnaire évangéliste américain se rend sur North Sentinel afin de convertir aux mythologies christiennes, selon ses dires, ce dernier bastion de Satan. Le terme d'évangéliste désigne une ribambelle de courant parmi les chrétiens dits protestants. Derrière les nuances, ils prônent tous que la Bible est leur roman préféré, qu'une bonne douche est salvatrice et, pour celles qui ne lisent pas la presse People, que le personnage central de leur saga préférée, Christ, se prénomme bien Jésus et qu'il assurera, à une date encore non précisée, des séances de dédicaces pour qui veut, et plus si affinité. Ces réflexions essentielles doivent être propagées par tous les moyens dans le monde entier par des actes missionnaires au quotidien. Cet acharnement à la rencontre avec Jésus fait que ces courants chrétiens sont parfois qualifiés par leurs détracteurs de « tinderiens ».
Le jeune missionnaire évangéliste américain est tué de plusieurs flèches lorsqu'il débarque sur la plage en novembre 2018. À la demande de l'Inde, les États-Unis d'Amérique acceptent de ne pas réclamer la restitution de la dépouille afin de préserver l'isolement des Iliens de North Sentinel et leur refus d'établir un contact durable. L'histoire, le mode d'organisation sociale et la langue des Iliens de North Sentinel restent encore un grand mystère, mais la certitude à avoir à leur rencontre est que du monde extérieur à leur île, ils ne veulent rien. La disparition programmée des Iliens est une chance pour le développement d'un écotourisme antispéciste. Lorsque l'interdiction de se rendre autour de North Sentinel sera enfin levée, les militants et les enfants du monde entier vont pouvoir venir admirer les derniers dugongs dans leur environnement naturel avant que ces mammifères marins ne s'éteignent eux aussi définitivement.
Ce drôle de mammifère marin gère sa flottaison sous l'eau grâce à ses pets. Et c'est pas pour rien qu'il est surnommé la vache des mers. Voici le dugong, l'un des animaux les plus étonnants des océans Pacifique et Indien où on le trouve. Bon, déjà, il faut savoir que malgré son apparence grassouillette, le dugong fait en fait partie de l'ordre des siréniens avec le lamantin. Et ce nom ne provient pas de nulle part, puisque des animaux de cette famille ont plusieurs fois été confondus avec des sirènes, notamment par Christophe Colomb qui écrivait dans son journal de bord avoir vu des sirènes dans la mer des Caraïbes, alors qu'il s'agissait de lamantins. En fait, cet animal broute près de 40 kg d'herbe marine par jour, ce qui va lui donner des gaz dont il va se servir pour mieux flotter sous l'eau. Le dugong va alors péter pour libérer la pression et ne pas être attiré à la surface. D'ailleurs, si tu trouves son museau bizarre, c'est complètement normal, puisqu'il s'agit en réalité d'une trompe. Le plus proche parent des dugongs et des lamantins est en fait l'éléphant.
Archipel protivophile. Parce qu'elle est un archipel, celui du rien, seule la protivophilie est en capacité de mesurer l'étendue des connaissances amassées sur F. Merjanov. Défenderesse d'une approche radicale d'une Macédoine qui part de rien pour mieux cerner l'état des recherches, la protivophilie est un outil indispensable. Par son intersectionnalité intégrale, elle croise les sujets pour déterminer les possibilités que F. Merjanov puisse en avoir eu connaissance, pour multiplier les probabilités qu'il soit en lien avec sa vie, dont nous ne savons rien, ou presque. Les hypothèses sont innombrables et la dimension encyclopédique du projet protivophile ne parvient pas à toutes les explorer. Inutile de prêter à F. Merjanov une quête désespérée à la recherche de l'empire de Lilliput décrit par le mythe romanesque gullivérien, ni de se lancer dans une navigation imaginaire pour accoster sur l'île des cynocéphales, des hominines à tête de chien, que Marco Polo assimile aux Andamans, pour en penser un lieu protivophile entre l'archipel andamano-nicobarienne et F. Merjanov. Le voyageur et affabulateur Marco Polo, mélangeant récits et racontars, décrit les Andamans dans son ouvrage « Le devisement du monde », publié à la fin du XIVe siècle. L'île d'Angania est grande. Les habitants y vivent en bêtes. Ils sont sauvages et très cruels. Ils adorent les idoles et vivent de chair, de riz et de lait. Ils mangent aussi de la chair humaine. Les hommes sont mal bâtis, car ils ont la tête faite comme celle d'un chien, de même que les dents et les yeux. Il y a dans cette île une étrange abondance de toutes sortes de parfums, de même que des arbres fruitiers de toutes les sortes.
Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là le vilain! Qui a mangé des bouts de caca? Non mais des fois, oh vilain tout plein! Non mais qui qu'est-ce qui m'a fichu ça? Veux-tu venir ici gros dégoûtant? Et pas bouger, assis debout couché? À son panier, oh le méchant, va te coucher, son pépère est fâché. Kiki t'a vu pépère, est en colère. Le pépère aïeux qui fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère on est pas malheureux. Le plus cucu, hein, c'était qui? Mais qui c'est qui des deux le plus neuneu? Le plus neuneu, hein, c'était qui? C'est qui le plus cucu des deux? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'était pas le Yuki. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui?
De toute façon, c'était pas le Yuki.
Bien sûr, la machine à écrire des textes dépourvus de sens que Gulliver rencontre lors de son troisième voyage qu'il conduit à Belnabarbi fait penser à la protivophilie. Mais cette dernière, contrairement aux inventeurs de cette machine à endormir les lupins prolétariens, n'a d'autre but que rien. Le pays de Belnabarbi est dirigé par l'île volante de Laputa, sur laquelle vit l'aristocratie. Sous la menace constante de l'utilisation de la force ou de sa destruction par Laputa, Belnabarbi et ses hominines sont volontairement endormis par une science spéculative totalement inutile à leur bien-être. Bien sûr, les îles femelles et mâles décrites par le voyageur fabuliste Marco Polo, la première est habitée exclusivement par des hominines femelles et la seconde par des hominines mâles, sont toutes deux adeptes des croyances chrétiennes, toutes deux se réunissant une fois par an pour procréer une descendance. Tout ceci semble être un double indice sur le sens des initiales à F. Merjanov, FM, et une confirmation de l'absence d'informations sur son genre. mais ses liens fictifs et littéraires ne résistent pas à une analyse protivophile qui rejette ses hypothèses relevant de l'illusion et du mythe.
Double illusion, fascinée par les hominines et bien éloignée de la démarche protivophile, elle se rapproche plus du paradoxe du singe savant, qui postule qu'un hominine qui tape au hasard sur un clavier d'ordinateur pendant un temps indéfini a une chance infinitésimale, mais non nulle, d'écrire quelque chose qui semble faire sens pour les hominines. Voir l'expérience menée avec brio par les spiritistes Gilles Deleuze et Félix Guattari, relatée dans Mille Plateaux. Pour se convaincre d'hypothétiques liens entre l'archipel andamano-nicobarien et F. Merjanov, il convient plutôt de se tourner vers ses propres écrits pour tenter de les décrypter. Feral je deviens, affranchi et libre, absolu, autonome, nomade du moi, mon territoire est sans frontières, j'existe au-delà de ce que je suis, comme un hominine sans qualité. Je ne sais qui je suis, comment, qui que tu sois, me définir, me nommer, n'être rien ou vouloir être, mon choix est fait, je suis. F. Merjanov, le tout, le rien, non daté. Provenant du mot latin fera, bête sauvage, ce terme peu usité de féral qualifie la situation d'une espèce vivante, animale ou végétale, qui, après s'en être extraite, vit et se développe hors de toute domestication, ou tout du moins le souhaite, car la domestication est un impérialisme persistant. Même sans ne rien savoir des hominines de North Sentinel, la protivophilie se refuse à imaginer possible une communauté sans contraintes, car l'illusion n'est pas de notre ressort, nous avons déjà eu l'occasion de le préciser. Et par conséquent, elle rejette la féralité attribuée à ces hominines. Pour F. Merjanov, féral est sans doute plus à comprendre comme une prétention, une déclaration d'intention que nul hominine n'est en mesure de vivre réellement, mais qu'il assigne à son corps défendant dans la caste très bollywoodienne des individualités tendant vers le sauvage, ou ITS, qui, malgré les quelques études entreprises par des anthropologues de terrain, est encore mal identifiée.
Alors, tu viens ?
Où on va ?
Sur l'île mystérieuse, comme les enfants du capitaine Grant.
Ah, et qu'est-ce qu'on fera ?
Rien, on existera.
Oh là là, ça va pas être marrant, hein ?
C'est la vie.
Extrait de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou, cité à l'entrée Road Trip dans Annaïque de Rien. Si les liens qui unissent F. Merjanov et l'archipel andamano-nicobarien sont à chercher dans l'ordre du symbolique, la protivophilie note qu'une autre approche doit être explorée. D'évidence, l'expression de Kalapani, eau noire, est à rapprocher de la mer noire, Tchernomoré en macédonien, où F. Merjanov vit actuellement de l'apiculture parmi les Tchernomoriens. Cette constatation agite d'hilarité la communauté protivophile qui voit dans ce parallèle une possibilité, même infime, que F. Merjanov puisse vivre sur l'île North Sentinel, sur laquelle la consommation de miel est avérée, ou dans un style marco-gullivérien, qu'elle soit son véritable lieu d'origine et que les analectes de rien soient son récit de voyage dans le reste de l'archipel terrien.
Tout sur rien, le quatrième mardi du mois à 17h, le vendredi à 9h30, 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 de Ganges-Vigan.